19h-20h. Les informés.
Le bilan d'Emmanuel Macron
avec Adil Farkan
n'est pas un bon bilan.
Sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble ici même pour commenter. Je vous l'apprends pas, analyser et décrypter l'actualité. Alors au sommaire, au menu ce soir, qu'est-ce que je vous propose? Je vous embarque vers une pièce contemporaine, une pièce tout simplement au théâtre du gymnase où on traite de politique. On traite de politique à la fois mêlée, vous savez, avec ce clientélisme, mais également aussi les petits arrangements. Elle est si bien réalisée, faite, la mise en scène, y compris le jeu de rôle. On va en parler tout à l'heure avec nos invités, ils sont dans le plateau, avec nous ici même, et on va les accueillir pour parler... tout simplement, de candidats, candidates. Ça, c'est les auteurs Ibtissam Garda et Khalid Balfoul. On en parle dans une poignée de minutes. Ensuite, après, tout à l'heure, à 19h15 précise, eh bien, les débatteurs, les influenceurs viendront commenter leur point de vue sur trois sujets. Qu'est-ce qui a bien retenu notre attention aujourd'hui? Eh bien, d'abord, on reviendra sur cette guerre en Ukraine avec ces pourparlers qui freinent et qui ne voient pas cette issue de sortie de crise. Est-ce que finalement, je vais poser la question tout à l'heure, Zelensky et Poutine arrivent à discuter, à échanger, tout simplement pour sortir de cette guerre? C'est la grande question. Clochette, c'est vrai, Giovanni, n'est-ce pas? On a droit à une clochette.
Oh, voilà.
Exactement. Ensuite, après, nous irons direction, eh bien, à un second sujet qui a retenu notre attention, je ne vous l'apprends pas, c'est les négociations très difficiles de Valérie Pécresse qui attend ce fameux soutien de Nicolas Sarkozy. On posera aussi la question. Et puis, vous le savez, c'est aussi Mélenchon qui ne cesse de progresser dans les sondages, y compris dans les quartiers populaires. Jusqu'où ira-t-il? Mais paraît-il, selon certains spécialistes, que les électeurs de Mélenchon pourraient voter Le Pen? Non, là, c'est double clochette quand même. Je peux pas y croire. Alors, double clochette, c'est parti. Giovanni, la clochette, la clochette. Je peux pas une seconde imaginer ça. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'invité du jour.
Les informés, l'interview. L'interview.
C'est avec les artistes, ils sont là, les comédiens. Je vais commencer par eux pour parler de candidats, candidates justement, qui se déroulent en ce moment même au théâtre du gymnase Barry Bell, à Paris, dans le 10e. Et c'est un véritable... Moi, j'ai été voir la pièce, je le reconnais. D'abord, je vais accueillir d'abord nos artistes, les comédiens, commençant honneur aux femmes, Leïla Boudmedjan. Oh là là, je vais y arriver. Je me suis dit, en rentrée, je vous jure, je vais vous faire une confidence. Oui. En rentrée, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la boulette. Et ben, je l'ai fait. J'ai programmé mon cerveau à l'avance.
C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. À vos côtés, c'est aussi bonjour. Philippe Cariou. Bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va? Heureux de vous accueillir ici, hein, vraiment.
Ben, oui.
Et puis, celui qui a écrit, qui est à, évidemment, l'écriture de cette scène de pièce, comédie, Khalid Balfoul. Bonjour.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Ça va.
Plaisir de vous accueillir ici. D'abord, je voudrais poser la question à Khalid. D'abord, j'ai été voir la pièce. Je voudrais vous dire bravo à vous trois, bravo à vous deux. Ce jeu de rôle, ce jeu de scène, excellemment bien tourné. On a d'un côté, évidemment, celui qui s'appelle Philippe, incarné par un maire. Et puis, vous le jouez très bien. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Vraiment, la pièce, vous nous embarquez dans une pièce qui n'est pas facile. Mm-hmm. Pas facile parce qu'on traite de politique. Quand on traite de politique, c'est toujours compliqué de séduire notre public. Mm-hmm. Et je trouve que vous l'avez sublimement bien fait et vous l'avez fait de façon remarquable. On va en parler tout de suite. Khalid Balfoul, alors vous êtes originaire de Mantes-la-Jolie, du Val-Fouré. Quelle belle histoire, quel beau parcours, hein. Vous n'en êtes pas à votre premier essai, hein, de pièces, de théâtre d'ailleurs. Vous en avez fait depuis. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça y est, vous êtes installé dans ce domaine?
Non.
Non.
Quand même pas.
Pas encore.
Non, pas encore. Non, non.
Comment est venue cette idée? Comment elle est née cette idée? En plein confinement?
En plein confinement, ouais. Cette idée, elle est née en plein confinement avec Ibtissam, que je salue d'ailleurs.
Bien sûr, Ibtissam Garda,
écoute, là. Elle doit certainement nous écouter. Voilà, c'est tiré un petit peu aussi. Bon, bah, Adil, on se connaît depuis un moment maintenant.
Ah, bah. Ça, c'est clair.
C'est tiré un peu de mon expérience que j'ai voulu partager, que j'ai partagé plutôt avec Ibtissam. Et on s'est dit, j'avais déjà fait un long métrage, hein, pardon, donc tu connais, ils l'ont fait.
Oui.
Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas adapter, on va dire, en quelque sorte, un petit peu, peut-être ce long métrage, en théâtre, parce que je kiffe le théâtre, voilà, simplement. Et l'idée est née comme ça, c'est de se dire...
Vous voulez partager votre expérience, c'est quoi, l'expérience politique, justement?
L'expérience politique, ouais, justement, c'est ça. L'expérience politique, pour le peu de temps que j'ai passé, on va dire...
Vous tombez bien, vous êtes en pleine actu, là, hein. Les élections présidentielles, est-ce qu'elles sont porteuses?
C'est-à-dire?
Ben, elles vous embarquent, justement, avec vous. Ça fait sourire, Leïla, pourquoi?
Non, je sais pas si. je sais pas si ces élections.
Ces élections, voilà,
si ces élections nous embarquent ou pas. Mais ça, faudrait peut-être
ça
demander à nos deux comédiens.
Eh ben, on va, m'adresser à Leïla, justement. Ouais. Leïla, justement, alors. Ça vous fait sourire, pour quelle raison?
Oui, non, mais parce que ce qui est sympa, c'est que c'est de réactualiser parfois des petits moments de la pièce, en fonction de l'actualité. Mmh. Et oui, même à l'écriture et pendant les répétitions. On incluait des choses un peu actuelles.
Donc, oui. Alors justement, parlons-en, parce que je trouve que vous l'abordez bien, candidat justement sur scène, vous, Leïla et Philippe. Et sur scène, ça donne assez bien ce jeu de rôle. Est-ce que vous avez, à quel moment vous vous êtes raccordé, vous vous êtes dit, c'est pas simple d'ailleurs de raccorder les différents jeux de scène et jeux de rôle. Parce que quand on parle de la pièce, d'ailleurs on va planter le décor, cette pièce parle de candidat Philippe. En gros, vous êtes Gonzague Maréchal, le maire sortant d'une ville.
D'une ville banlieue, on imagine parisienne, puisqu'il y coule l'Yvette, donc c'est dans le coin. C'est Blaireau-sur-Yvette. Donc une ville avec un maire très très installé depuis 30 ans, avec sa belle équipe et ses belles petites magouilles pour rester en place.
Et son clientélisme.
Bien sûr, son clientélisme. Et
son cynisme aussi, ça m'a frappé dans votre pièce.
Toujours.
Très cynique, hein, le maire, sortant.
La politique est cynique.
Oui.
On en a des exemples.
Et vous le faites bien.
Nous. Eh bien, voilà.
Mais comment vous l'avez endossé, ce rôle?
Eh bien, elle a fait un casting de cynique et j'ai gagné.
Excellent. Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Vous, Leïla, vous avez deux rôles, hein, sur scène, justement. Alors, expliquez-nous et dites-nous comment vous, cette espèce de schizophrénie en permanence, ce jeu de rôle.
Alors, je campe le rôle de deux personnages, celui de deux sœurs jumelles. Donc, l'une est avocate.
Et vous, avec la sœur avocate,
ouais.
C'est la nouvelle génération.
Exactement.
Qui a ses méthodes aussi.
Exactement, c'est ça. Mais c'est quand même une personne très rigide, très, 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 très dure et qui a soif de pouvoir. Il s'avère par un...
Et qui aborde tous les sujets, d'ailleurs.
C'est vrai,
diversité des quartiers, etc.
Oui, oui,
et qui est préoccupée justement par ces questions-là.
Oui, oui, c'est vrai.
Et elle veut en finir avec ça.
Exactement, mais le petit souci, c'est qu'elle elle rencontre un événement qui fait qu'elle ne pourra pas se présenter. Elle ne pourra pas entrer en campagne. Donc, elle envoie sa sœur jumelle à sa place, qui est tout l'inverse d'elle. C'est une star des réseaux sociaux qui brille dans son domaine à elle, mais qui est complètement différent du sien, donc de la politique, puisqu'elle est influenceuse.
C'est là où tout commence.
Jouissif, voilà,
jouer. Parce qu'elle est propulsée dans ce monde impitoyable et cynique, justement, de la politique. Et avec des codes qui ne sont pas les codes qui sont habituels.
Qu'elle ne comprend pas.
Et donc, plein de choses qu'elle ne comprend pas. Et à la fois, derrière elle, il y a toute une frange de la ville qui se réveille parce qu'elle est de la nouvelle génération, parce qu'elle parle comme les jeunes peuvent parler.
C'est un vrai coup quand même sur scène.
Elle séduit.
Ouais.
Elle séduit beaucoup.
Elle séduit beaucoup, c'est Sonia Lady Queen.
Sophia Lady Queen.
Sophia Lady Queen et Sonia Amar, qui est l'avocate, la sœur jumelle.
Oui.
Et vous avez dû travailler ce personnage, Leïla, comment ça s'est passé suffisamment en coulisses, en amont? Parce que, faut le reconnaître, faut le dire à nos auditeurs, c'est compliqué de jouer deux rôles face à Omer sortant, qui est lui un taulier, ce charisme naturel, Philippe, hein, je vous le dis, clairement.
Et puis il y a eu un casting pour ça aussi.
Il y a eu un casting, Khalid, c'est ça?
C'est petit Sam.
Non, mais comment vous avez préparé ces deux Sonia Amar et à la fois Sophia Lady Queen?
Alors, ce qui peut être assez difficile, c'est que ce sont deux personnages très opposés, mais pas que dans leur caractère, c'est même visuellement et vestimentairement parlant, et tout est différent normalement. Mais c'est ce qui, en tout cas, là où je puise ces petites choses de jeu, c'est que j'ai un petit peu cette.
Mais comment vous l'avez travaillé?
Cette dichotomie en moi, dans Absolument. Le sens où j'ai fait du droit, donc j'ai un master de droit, et en même temps de l'autre côté, je regarde les Marseillais. C'est une émission de télé-réalité. Ouais, donc finalement, je crois que j'ai un pied dans un peu chacun de leurs deux mondes.
Mais vous êtes inspiré de quoi? Ou juste pour aller jouer ces deux personnages?
Alors moi, par exemple, tout ce que j'apprenais en droit, etc., les termes juridiques, les manières de parler, les manières de... Les plaidoiries, les concours d'éloquence, etc., c'était quelque chose que j'ai retrouvé dans la manière de parler de Sonia Amar. Et ensuite, bah, Sophia, écoutez, c'est les réseaux sociaux, c'est que j'ai aussi.
Et c'est vraiment les réseaux sociaux, chers amis auditeurs, je vous le dis clairement. Hein. Oui. C'est vraiment ce qu'on voit oui. dans la télé-réalité, c'est exactement comme ça.
Hein. Oui, c'est ça. Elle parle à ses followers, elle ouais. demande des likes, des partages, elle partage tout avec eux, les belles choses comme les moins bonnes.
Complètement intro, ouais. C'est oui, vrai. C'est, avec des tenues complètement des loufoques parfois.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est vrai, c'est exactement ça. Et ça matche bien entre vous deux.
Ben oui.
Tu préfères laquelle, le gonze?
Hein? Ben, je crois qu'on a dans la pièce, on sait très bien le maire pour qui.
Oui, en même temps, il y a quelques phrases qui veulent dire que il a toujours du recul par rapport à ça. Hein. La séduction n'est jamais gratuite pour un homme politique. Ouais. Jamais. C'est-à-dire que voilà, il joue. On a un rôle de séduction à un moment donné, l'un envers l'autre. Mais très vite, je rétablis la vérité en disant que ben voilà, il faut la politique justement. Ce n'est pas de résoudre les problèmes, de faire taire ceux qui les posent. Donc, je me débrouille pour qu'elle se taise.
Et dans la politique, vous l'empruntez et vous le dites d'ailleurs, vous le racontez très bien. C'est ce fameux clientélisme, ces petits arrangements. Alors, qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Parce qu'on est en plein dedans, on est en pleine campagne élection présidentielle.
La politique peut être complètement...
Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, justement? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme principal message dans cette pièce de théâtre?
C'est la petite histoire de l'homme dans la grande machine politique, c'est-à-dire la grande machine politique en soi, on la connaît. Je ne sais pas si elle intéresse beaucoup de gens quand on voit le taux d'absentéisme qui va y avoir et qu'il y a eu dans les élections. On se dit que la politique désintéresse complètement les gens. Mais là-dedans, il y a des hommes et des femmes. Et les travers de ces hommes et les travers de ces femmes font qu'on peut en faire un spectacle. C'est ça qui est intéressant. C'est l'inhumain dans la politique qui est intéressant. C'est pas la politique en soi.
Leïla, Boumedjan.
Oui, c'est complètement ça.
Est-ce que c'est vous aussi séduire les jeunes, le jeune public à la politique? Est-ce que c'est aussi ça?
Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est la démarche. Oui. Et même plus que de la politique, au théâtre, finalement. On a reçu une quinzaine de filles de Mantes-la-Jolie, d'ailleurs, oui. qui n'étaient presque jamais allées au théâtre et qui n'avaient pas l'impression que le théâtre pouvait être ça. Ça pouvait être un moment de rigolade, festif. Elles pensaient que c'était vraiment quelque chose de très dur, d'austère. Et plus que de la politique, c'est faire venir les jeunes au théâtre et leur montrer qu'on peut rire. Et puis qu'on peut apprendre des choses et que ça peut être intelligent. Et rigolo aussi à la fois.
D'ailleurs, vous savez, je voulais pas dire, mais vous avez créé deux vocations chez les jeunes filles.
Oh non.
Ah
bon.
Ah ouais, complètement.
C'est vrai.
En rentrant. Ah non, mais je vous le dis, non, clairement.
Donc elles veulent, grâce à la pièce, vous avez suscité des vocations.
Deux vocations.
Elles s'appellent comment, tu sais?
Non, j'ai pas leur prénom, mais ça c'est sûr, je vous le dirai. C'est quoi? Et elles veulent, bon, de toute façon, je pense que elles veulent revenir, mais elles sont approchées les accompagnatrices en disant que c'est ce qu'elles veulent faire. Je vous le dis.
Comédienne.
Ouais.
Comédienne.
Khalid, je sais pas si
elle veut être comédienne ou elle veut être mère de.
Je marque si vous voulez bien juste une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après justement pour finir avec vous la pièce candidate qui se joue au théâtre du Gymnase en ce moment même à Paris 10. C'est aller voir, je vous le dis, chers amis auditeurs, franchement, courez sans réfléchir pour aller voir cette pièce excellemment bien jouée avec Leïla Boumedjan, Philippe Cariou, n'est-ce pas, hein? On a la clochette, ouais. N'est-ce pas? Metteur en scène Ibtissem Garda et Khalid Balfoul, qui est un auteur, hein, je précise. Voilà. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Il est 19h21 précisément et c'est candidat, cette pièce, ce comédie justement qui se déroule en ce moment même tous les vendredis et les samedis soirs. La pièce donc qui s'intitule Candidate avec Leïla Boumedjan, Philippe Cariou, auteur Ibtissem Garda, Khalid Malfoul qui sont avec nous ici sur le plateau même. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous dire à quel point cette pièce est vraiment excellente. Je vous le dis, je ne sais pas pour vous flatter ou quoi que ce soit. Réussie. Bravo à vous deux. Et bravo à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs quand on s'adresse à cette nouvelle génération? Quand je pense à Sophia Lady Queen, qui justement a ce langage, a ses codes, elle est, pour parler justement politique. Est-ce que ce sera à terme une nouvelle manière de faire de la politique? Je pose la question. Philippe?
Je pense, oui, que ça peut être une nouvelle manière de communiquer. Ça peut être une nouvelle manière aussi de faire du théâtre, parce que nous avons énormément de personnes qui ne sont jamais venues au théâtre, qui viennent voir cette pièce. Donc c'est une... Oui, je pense que c'est une nouvelle accroche, en tous les cas. Et si vous n'êtes jamais allé au théâtre, et si vous avez peur de vous emmerder au théâtre, je vous conseille de venir nous voir, non pas parce qu'on est magnifiquement installé et qu'on est excellent, mais parce que c'est une pièce qui peut vous toucher, justement.
Leïla, Boumedjan.
C'est ça, en fait, c'est que l'univers de l'influence et de la politique en prennent. Tous les deux, ils en prennent pour leur grade, mais finalement, c'est à travers les vulnérabilités de chacun de ces deux mondes qu'on arrive à être touché par ces deux personnages-là.
Un mot, d'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles qui vous écoutent, à celles et ceux qui vous écoutent partout en France? Philippe Cariou, pour venir voir candidate. Qui se déroule en ce moment au théâtre du Gymnase, à Paris 10.
Si vous avez peur de la politique, venez nous voir.
Leïla, Boumedjan.
Si vous aimez les Marseillais, venez nous voir.
Clochette, Khalid, Belfoul, qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Venez nous voir, tout simplement.
Eh bien, allez-y. Franchement, moi, je vous le dis clairement. Évidemment, vous me connaissez, les amis auditeurs. Je ne tourne pas autour du pot. Quand il y a quelque chose qui me plaît, j'ai été voir cette pièce. Elle est excellente. Allez la vivre en direct. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Candidat, candidate, tous les vendredis et samedis au théâtre du Gymnase Maribel à Paris 10. Avec nos artistes, bravo à vous deux.
Merci.
Leïla Boumedjan, Philippe Cariou, Khalid Malfoul, Ibtissam Gerda. Je vous souhaite bon vent.
Merci.
Vraiment, je vous souhaite un vrai succès parce que cette pièce le mérite. Merci. Inch'Allah. Bien sûr, vous avez lâché le mot. Vous pouvez le dire, hein, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème. Hein. À bientôt.
Merci.
Et merci d'être venu. Khalid, on ne lâche rien.
Avec plaisir, on ne lâche rien.
Voilà, on ne lâche rien. Merci tout de suite, 19h23, on change de plateau. Merci Leïla, à bientôt. Merci Philippe Cariou. À très très bientôt. Hein. On reviendra. Il faut y aller les voir justement. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va recevoir nos amis débatteurs qui viennent ici. Allez, Pierre-Henri qui est avec nous. Bonjour, mon cher Pierre-Henri. Emmanuel Dupuis. Bonjour, Gamal Abina. On change de plateau. Et là, on va parler politique, messieurs. Bonjour, Bilal Nenman. Tiens, asseyez-vous, messieurs. Bonsoir, Pierre-Henri. Comment ça va?
Bonsoir, Adil.
Porte-parole du collectif pluriel En Marche, plus que jamais. Merci Khalid, merci. Je dis tout en direct. Collectif pluriel. Voilà, absolument. Merci à vous.
Au revoir,
à très bientôt. Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis. La maison Beurre FM lui avait manqué.
Oui, je vous l'ai dit, Adil.
Oui, c'est vrai. Hein,
je vous l'ai dit, il n'y a pas de...
Vous savez qu'on ne quitte pas la maison Beurre FM comme ça.
Il
n'y
a pas de fourmi.
Ah, vous avez manqué la maison, dites-le.
Je l'ai dit, oui. Ouais. J'étais vexé de ne plus venir.
Voilà. Ah, on peut faire le tour des médias.
On peut dire aux auditeurs que nous étions un petit peu fâchés.
Oui, mais bon, ça y est, on se réconcilie. Mais on est des gens qu'on s'apprécie.
Voilà, et donc voilà. Moi, j'apprécie beaucoup de venir en bonne, très bonne compagnie. Et ce soir, on est en très bonne compagnie, donc
exactement.
Je suis absolument enchanté de ça.
Eh bien, ravi aussi et partagé. Gamal Abina, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet tout de suite, sans tarder. Tour de table, vous savez, je vous mets dans le bain. Franchement, on a du mal à suivre parce que, entre les pourparlers, d'abord, je voudrais vous faire réagir. Qu'est-ce qu'on retient du passage, justement, de la guerre en Ukraine, mais surtout du président Zelensky qui s'adresse au Parlement français? Que faut-il retenir, Pierre-Henri?
Que faut-il retenir?
Bah oui, parce que il s'est adressé aux Allemands en parlant du mur de Berlin, il s'est adressé aux Américains en parlant du 11 septembre, il s'adresse à nous en parlant de Verdun. Bon,
oui,
liberté, égalité, fraternité.
Et en demandant aux entreprises françaises de quitter la Russie. La question est de savoir aujourd'hui quel est l'espace de négociation et sur quoi portent véritablement ces négociations. Et qui a intérêt à ce que la guerre continue en Ukraine. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que nous allions vers un compromis. Et plus le temps passe, plus je m'interroge sur les conditions de ce compromis. Voilà, donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Qui a intérêt à ce que la guerre continue ? Les Ukrainiens ? Certainement pas.
Mais est-ce que ça a un impact réel, franchement, très honnêtement, le fait que le président Zelensky s'adresse au Parlement français ?
Bah, ça a un impact en termes de communication.
En termes de communication.
Il fait très bien sa communication.
Emmanuel Dupuis ?
Oui, en fait, le président Zelensky ne s'adresse pas qu'au Parlement français.
Oui.
S'adresse à la France, puisqu'il y a 577 députés et 348 sénateurs, il représente les citoyens français qui les ont élus. Donc c'est une façon de s'adresser à l'ensemble de la communauté nationale, d'autant qu'il ne vous aura pas échappé que les membres du Conseil de Paris étaient également présents, pour donner un peu plus de solennité. Donc en fait c'est le Congrès. Mais je crois que le président Zelensky a...
Qu'est-ce qu'il attend de la France au juste ? Il attend quoi ?
Ça a été rappelé par Pierre...
Pierre-Henri, oui.
Bah, déjà il faut rappeler qu'il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui continuent toujours à travailler en Russie. Il les a nommées, il ne les a pas toutes nommées. Danone, Leroy Merlin,
Total.
Decathlon, Auchan, Total Energy, c'est un peu discutable parce que Total Energy a décidé de ne plus avoir d'activité pétrolière, mais à raison de la fin 2022. Pétrolière, mais par contre, ils maintiennent les activités gazières. Je rappelle que 30% des réserves gazières de la Russie sont propriété de Total. Donc forcément, il y a un manque à gagner absolument considérable. Mais je crois que le président Zelensky a raison de s'adresser là où ça fait mal et là où la psychologie de chaque peuple est sensible. Mariupol ressemble effectivement à Verdun. Il s'est adressé à Knesset en rappelant que le président Vladimir Poutine utilise des mots que d'autres ont utilisés dans le passé par rapport à la
sanction
finale. Par rapport
on peut dire Brest aussi.
Brest.
Dans le passé. Oui.
Pourquoi Brest,
Il n'y a pas eu une histoire. Il y a eu une histoire aussi, non, il me semble.
Dans Brest-Litovsk.
À Brest-Litovsk.
À l'époque, je parlais à la première.
Ah oui, parce que pas Brest-Litovsk. Oui. Donc c'était en 1924.
Oui, pardonnez-moi, j'ai l'articule.
Donc c'était effectivement dans cette configuration qu'il en appelle à l'histoire. Ouais. On pourrait effectivement évoquer le fait qu'il parle aux Britanniques en mentionnant Churchill, Shakespeare, Hamlet, etc. Tout ça fait partie de sa stratégie de communication. D'un mot, juste une phrase.
Allez-y.
Il faut quand même rappeler pour les auditeurs quelque chose qui leur échappe peut-être, que depuis le début du conflit,
on a 28 jours.
Vous savez combien d'argent sont rentrés dans les caisses russes ?
Dites-nous.
18 milliards d'euros. Parce que chaque jour...
Ça rapporte donc.
Parce que chaque jour, tant qu'on n'a pas fait un embargo total sur les produits hydrocarburés, gaz et pétrole, c'est 700 millions d'euros qui, chaque jour, sont payés à Gazprom.
Ça, c'est une information.
Et donc,
nous, les Européens, on trinque.
Non, pas tranquille.
C'est pas que nous trinquons, nous payons.
On paye.
Ouais, on paye.
Nous payons.
On paye.
Vladimir Zelensky l'a dit en disant « Ne vous cachez pas derrière vos petits doigts ». La phrase qu'il a utilisée, c'est « Ne mettez pas la tête dans un trou ».
Moi, je suis
gêné. Kamal Abina, tiens, autre opinion, justement, qui diverge à celui de Pierre-Henri et Emmanuel Dupuis, peut-être.
Non, c'est pas une question de divergence, c'est une question de méthode. Je trouve que ce président n'est pas très sérieux. Il a été abandonné.
Justement, on en parle.
Il faut utiliser les termes sérieux. Il a été abandonné par l'Occident, clairement. C'est-à-dire que les sanctions économiques, qui encore une fois avec l'interaction économique, puisque la Russie quasiment est un économie qui était totalement intégrée à l'Europe occidentale, eh bien ces sanctions ne peuvent pas se faire de façon raisonnable, on dira, parce que ça a un impact des deux côtés. Quand vous sanctionnez par exemple les Russes, plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, l'Allemagne perd toute son énergie, parce que l'Allemagne n'a que 50% de production de charbon et pas de pétrole et de gaz. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, les sanctions économiques ne veulent rien dire. Ensuite et surtout, il a un discours qui, alors c'est un discours qui me gêne des deux côtés, hein, du côté russe comme du côté ukrainien, c'est ce discours un peu néo Seconde Guerre mondiale Verdun, il va jusqu'à la première, où il fait référence à Brest-Litovsk, qui est une défaite russe.
Pearl Harbor
pour les Américains, le 11 septembre, enfin, il a une tchouk-tchouka, il va voir le Parlement israélien pour leur dire quoi ? Pour leur dire attention, c'est les antisémites en face. Bref, tout ça ne tient pas la route. La réalité, c'est qu'il a été abandonné, que les Européens ont du mal à juger d'un abandon comme celui-ci en faisant croire qu'ils vont faire pression sur la Russie, alors qu'ils n'en ont aucunement les moyens. Et qu'aujourd'hui, c'est une importance d'information, c'est bien d'ailleurs qu'Emmanuel nous rappelle pour l'argent. Aujourd'hui, les Russes menacent de libérer leurs comptes en roubles et en yuan. Donc l'axe économique est en train de se déporter et les moyens pour les Russes sont de loin supérieurs.
C'est important ce que vous êtes en train de dire.
C'est considérable. C'est-à-dire que si les Russes refusent de vendre du gaz et du pétrole à l'Europe, les conséquences sont désastreuses. Et ça va faire monter, parce que je ne parle pas directement en termes d'approvisionnement, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur l'Amérique, mais ça va faire monter les cours du pétrole et du gaz dans les proportions totalement jamais atteinte de l'histoire de l'humanité. Donc c'est en cela que je dis, le discours de Zelensky est un discours d'un homme qui est en panique, qui a été lâché et qui essaie de effectivement faire un discours à destination des populations parce qu'il sait que les dirigeants ne le suivront pas.
Le débat continue, vous le savez, on revient avec Pierre-Henri, avec Emmanuel Dupuis, c'est le grand retour, mais également aussi avec Gamal Abina, le Quoi de Neuf avec une minute de retard, c'est parti.
Les informés, le Quad 9.
C'est comme chaque jeudi avec le docteur Majid Sioussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides chez le militaire et au SAMU. Bonsoir docteur.
Bonsoir mon cher Adil, vous perdez la tête, vous viendrez me voir pour un bilan neuropsychologique, nous sommes mercredi.
Ah mercredi, vous avez raison. Oh là 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 là, j'ai droit à la clochette, allons-y. Voilà, exactement. On vous écoute pour votre billet d'humeur concernant les discriminations et l'Ukraine, à vous la parole.
Eh bien écoutez mon cher Adil, rendez-vous compte que je viens d'apprendre quelque chose d'extraordinaire.
Ah.
Quelque chose que j'ignorais totalement.
Ah, c'est-à-dire
près d'une agence immobilière sur deux acceptent de pratiquer des discriminations racistes à la demande de leurs clients.
Quelle surprise.
Un testing organisé par SOS Racisme auprès de 136 agences immobilières révèle que quand on simule la demande d'un propriétaire raciste qui ne veut pas qu'on loue son logement à, ou par exemple, à un noir ou à un arabe, eh ben il est exaucé dans près d'un cas sur deux. Quelle découverte ! Première nouvelle ! Ou pas ! Car tout d'un coup, je me souviens d'une condamnation d'Adecco et de Garnier en 2011 pour discrimination raciale, pour des faits qui remontaient, tenez-vous bien, à 2000. À l'époque, Garnier avait demandé qu'on lui recrute des animatrices BBR. Vous comprendrez ce que ça veut dire.
Oui.
Bleu, blanc, rouge.
Ah, pas bleu, vert, dommage.
Ah non, 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 BBR. En 2020, 7 entreprises françaises, Air France, Accor, Alstom, Arkema, Renault, Rexel et Sopra, excusez du peu, avaient été épinglées pour discrimination à l'embauche par le gouvernement. Et je me garderai bien d'évoquer les études déjà fort anciennes qui prouvent que quand on est arabe ou noir, on a plus de chances de se faire contrôler par la police, ou celles qui prouvent que si on envoie deux CV identiques avec comme candidat Marion Sissoko ou Mariam Sissoko, Marion Sissoko a plus de chances de voir son CV retenu. Vous savez quand même, Adil, on finit par se fatiguer. En plus de 15 ans, j'en ai vu passer des études sur les discriminations, les contrôles aux faciès, le plafond de verre. Et j'ai peu vu, comme vous, d'actions ou de mesures pour changer les choses. En revanche, j'ai entendu avec constance les reproches d'un communautarisme, d'un séparatisme. C'est pourtant vrai que je suis bête. Moi qui croyais que c'était plus souvent un communautarisme subi que choisi, un séparatisme d'oppositionniste plutôt qu'un séparatisme organique. Je m'étonne parfois moi-même d'être encore aussi insouciant et confiant dans la vitalité républicaine. Alors que pourtant, le thème dominant de ce début de campagne présidentielle a été le grand remplacement et l'islamisation du pays.
Oui, 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 oui.
À ce titre-là, je ne remercierai jamais assez Poutine d'avoir envahi l'Ukraine. Grâce à lui, on nous oublie un peu, chose à laquelle le Covid et ses vagues successives n'étaient pas arrivés à faire. Et donc je vous invite, Adil, avec vos invités sur le plateau, à vous joindre à moi pour une petite prière afin que l'Ukraine résiste, pour que Kiev ne tombe pas. En tout cas, ne tombe pas au moins avant le 23 avril, date du second tour des élections présidentielles. Et si j'osais, je poursuivrais ma prière pour leur demander encore un petit effort et de tenir au moins jusqu'au 19 juin 2022, date du second tour des législatives. Ensuite, nous verrons. Nous avons déjà tant pris l'habitude d'être malmenés, discriminés, vilipendés, pour que nous n'en étonnions plus et nous souffrirons en silence.
Bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Sioussine. Excellent, bravo,
d'ailleurs,
bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal Abida ?
J'étais une chose, parce qu'il imagine, simplement, c'est que moi, j'étais dans une agence quand j'étais plus jeune, pour trouver un emploi.
Ah,
pour trouver
une agence de mannequin ?
Non, je suis assez beau pour ça. J'ai pas ton physique, mon ami. Il est l'état de mannequin, ça.
Lui, il est très grand et beau gosse.
Absolument. Et donc, je suis allé avec un copain portugais, ils m'ont pris pour un italien. Et la fille nous a confié en douce. Alors, regardez les fiches, quand il y a une pilule rouge, ça veut dire pas de noir, pilule rouge, pas d'arabe, et pilule noire, pas de noir. 95% des fiches, pas de noir, pas d'arabe. C'était un festival sur Paris. Je donne pas
longtemps. Quelle
année ? En 92.
92, eh bien. Voilà. Ça a changé ? Je crois pas.
Hein. Non, c'est pareil.
Non, pas vraiment.
Pareil, je crois pas. Merci, mon cher docteur. À mercredi prochain, sans faute.
Avec joie et enthousiasme.
Avec joie partagée et enthousiasme aussi. Bon. Allez, tout de suite, on lance la pub et on se retrouve avec les débatteurs influenceurs. On va parler des sondages Pécresse qui mènent une campagne difficile. Et je m'adresserai à Emmanuel Dupuis. Elle a beaucoup de mal, Pécresse. Elle rame. À tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Gamal Abina. Les informés, c'est avec Pierre-Henri. Et enfin, avec Emmanuel Dupuis. Un numéro, c'est celui-là. Retenez-le.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, mais surtout le 0153483000. C'était pas le bon jingle, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Valérie Pécresse qui connaît une campagne quasi impossible depuis des semaines, vous savez, entre des meetings ratés, la candidate des Républicains qui se fait évidemment lâcher par des poids lourds de la République en marche.
Non, c'est pas tout à fait la même cabri.
Des Républicains. Donc messieurs, un tour de table. Et j'ai envie de m'adresser à Emmanuel Dupuis. Que se passe-t-il?
Allez, je m'y colle. Je rame le premier. Oui, Valérie Pécresse est dans...
Que se passe-t-il?
Je ne suis pas dans son esprit non plus. Ce que l'on peut dire néanmoins,
oui,
c'est que la dynamique n'y est plus, qu'elle n'y est plus depuis le meeting auquel vous faisiez mention de la Villette, qu'elle a avec certitude loupé. Mmh. En même temps, une campagne ne se limite pas à un meeting, mais néanmoins, comme je disais, la dynamique n'y est plus parce que chacun est arrivé dans cette campagne, dans cette famille politique, qui est partiellement la mienne. Vous savez que les centristes sont partenaires des Républicains, avec sans doute des objectifs différents. Certains voyaient l'après-campagne avec la recomposition d'un parti républicain,
ben oui,
majoritairement.
Et puis on la voyait tous au second tour, Valérie Pécresse.
Voilà, pas tant.
Nous espérions au second tour. Donc il y avait certains qui pensaient à la recomposition politique postérieure à l'élection présidentielle et législative. Certains se voyaient déjà dans les postures législatives, ou parce que cette fois-ci le scrutin advient 2 mois après, ça laisse une perspective de reconstituer une majorité qui n'est pas forcément celle dont sera issu le président au soir du deuxième tour. Et puis certains qui se rendent compte que la candidate n'est pas forcément la meilleure candidate que nous aurions souhaité, avec un certain nombre de désillusions. L'ancien président de la République est attendu dans son soutien, quand je pense à Nicolas Sarkozy.
Ah, c'est un supplice qu'il inflige.
Oui.
Jour après jour.
Alors il finira par la soutenir ou pas, non?
Je ne suis pas non plus dans son esprit.
Les bribes de couloir que j'ai, moi...
En même temps, certains disaient que dimanche dernier, il devait annoncer un autre choix. Bon, ouais, il ne l'a pas fait.
Pierre-Henri.
Oui, alors, je pense que, l'erreur des Républicains, ça a été la primaire. Rappelez-vous cette primaire où, en réalité, Valérie Pécresse sort en tête à quelques 2000 voix devant 2000, 3000 voix devant ses concurrents. Et en fait, le Parti Républicain, rabiboché, c'était 4/4. Et les 4/4, il faut les réunir. Et Valérie Pécresse, qu'a-t-elle fait? Elle est allée vers Éric Ciotti et a entamé la danse du ventre autour d'Éric Zemmour.
Oui.
Et c'est comme toujours dans ces cas-là, on préfère l'original à la copie. Et donc, en plus, une candidate qui n'est pas adaptée au format qu'on lui a proposé autour de ce grand meeting, ça c'était un véritable désastre. La question également de savoir comment elle a gagné, y compris avec un certain nombre de voix qui semblent venir de gens qui n'existaient pas, et du fameux Douglas, vous savez, le chien qui a voté à la...
On l'a traité ici.
Au moins, il est chez les Républicains et pas au Parti Animaliste. C'est bien.
Voilà. Bon, et tout ça fait que c'est plutôt un naufrage pour la démocratie, parce que moi, je me réjouis pas que les deux grands partis de gouvernement, qui étaient le Parti Socialiste et les Républicains, aient disparu.
Elle est out, ça y est.
Ah ben, je pense qu'elle est out.
Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel Dupuis, avant de retrouver Gamal Abina?
Là-dessus, j'abonde parfaitement dans le sens de Pierre-Henri. Quelle que soit notre appétence pour les idées politiques des uns et des autres, on ne peut pas se résoudre à ce qu'il n'y ait que 10% pour les deux partis réunis, parce qu'on risque d'avoir ça. On risque d'avoir le Parti Socialiste et les Républicains à moins de 10, juste 10. Évidemment, c'est un...
C'est la descente aux enfers, comme on dit. Gamal Abina, tiens. Gamal Abina.
Oui, 2% pour le PS.
Moi, je suis 2%. Gamal Abina, s'il vous plaît. Gamal Abina.
Dans les années 90, on disait que la France est la droite la plus imbécile au monde. C'est ce qui était dit. La plus bête au monde. Parce qu'elle n'était pas capable de se réunir. À l'époque, Chirac, Giscard, bref, on se souvient de ces divisions. Aujourd'hui, malheureusement, la droite est tombée dans le piège que Macron lui a tendu. Macron a créé, ou a directement créé par la stratégie qui a été initiée par un ancien conseiller Mitterrand, Jacques Attali, il a créé Zemmour, littéralement. généralement pour casser l'extrême droite, pour réduire un peu l'audience considérable qu'avait Le Pen, et pour casser la droite. Ça fonctionne à merveille. Et ce qui se passe, c'est que comme la droite n'a pas su se positionner de façon républicaine, pour le coup, parce qu'il y avait une droite républicaine qui n'était pas du tout dans une posture raciste ou exclusive, toutes ces démarches un peu inquiétantes, eh bien, ils ont parié sur une candidate qui est une sorte de d'ersatz de Sarkozy, et qui en plus se vante d'être la fille spirituelle de Sarkozy.
Alors, Emmanuel Dupuis n'a pas l'air d'accord. Oui, mais bon, on va l'écouter. Non, mais attendez.
Pour conclure. Je sais que ça va l'embêter, forcément. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a une Pécresse que j'ai vue dans son meeting de campagne au démarrage. C'est un ami qui m'a invité. Elle était médiocre. On a vu son dernier meeting. Elle était plus que médiocre. Elle était ridicule. Il faut le reconnaître. J'ai même les gens qui sont les plus gentils avec elle se sont rendus compte des postures un peu imbéciles. Et surtout, elle n'est pas bonne en débat. Alors même face à Zemmour, on avait l'impression qu'elle se débrouillait, mais finalement, on voyait une sorte de bataille de chamaillerie entre deux candidats pas crédibles, ce qui fait que...
Même si elle mesure... Attention, hein, elle maîtrise ses dossiers. Hein.
C'est pas une question de maîtriser les dossiers. Il y a le savoir-faire, le faire savoir. Elle ne sait pas communiquer. C'est quelqu'un qui prend des postures...
Trop bourgeoise.
Costume. Non, même pas le côté bourgeois. C'est une... bon, elle était éduquée dans les écoles catho, mais c'est pas le propos. Le problème, c'est qu'on a des gens qui sont pas formatés.
Il y a des gens très bien...
C'est ça que je dis. Parce qu'elle a été éduquée dans les écoles catho, elle devrait être meilleure. C'est pas négatif, c'est positif. Les écoles catho sont quand même de belle qualité. Donc c'est le contraire, vous avez compris à l'envers. Ce que je veux dire, c'est que Pécresse, elle n'a pas de charisme. C'est quelqu'un qui a un personnage qui a un charisme de poule.
Aucune envergure, aucun charisme. Emmanuel Dupuis.
Bah, écoutez, prompteur m'a tué un peu. Hein. Ouais. J'ose dire. J'ose m'exprimer ainsi plutôt. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de créer Éric Zemmour pour se débarrasser de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse avait un vrai problème, ou la droite avait un vrai problème en confiant notre présidentielle à Valérie Pécresse, c'est que le camp adverse, les Républicains en Marche, disposent de toutes les connaissances intuitives des dysfonctionnements d'autres partis, puisque ce sont les propres anciens conseillers de Nicolas Sarkozy qui conseillent actuellement l'actuel président. Je pense notamment à M. Thierry Solaire, parmi tant d'autres. Et donc forcément, quand vous connaissez les dysfonctionnements d'une machine à l'intérieur, eh ben vous en usez et vous en abusez. Pas besoin de créer une...
Mais il l'a fait quand même.
Pierre-Henri.
Oui, alors je...
Il l'a fait quand même. On passe au troisième sujet.
Oui, je ne pense pas une seconde que Zemmour soit la création de la République en marche ou d'Emmanuel Macron. L'entreprise Zemmour, c'est la plus grande entreprise de banalisation de Marine Le Pen. Et je l'ai souvent dit sur cette antenne, finalement, entre Zemmour et Marine Le Pen, il y a une feuille de papier cigarette. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que au second tour, aujourd'hui, Marine Le Pen est évaluée à 45%. Et donc, un pays qui vote à 45% ou qui est susceptible de voter à 45% pour l'extrême droite est vraiment un pays qui va très mal et qui annonce un quinquennat extrêmement difficile. Et de ce point de vue, il faudrait aussi que la gauche, tout à l'heure,
Gamal Abina
disait que nous avions la gauche la plus bête du monde ou d'Europe, peu importe, laissons-lui le continent européen. Je crois que c'est assez vrai quand j'entends aujourd'hui un certain nombre de gens qui à gauche tapent par exemple sur Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul à avoir une véritable dynamique et qui plus est se pose la question de l'abstention en cas de duel Macron. Marine Le Pen.
Gamal Abina, je voudrais quand même qu'on parle de Mélenchon, s'il vous plaît. Gamal Abina.
On va parler. Donc, non, je ne parlais pas de la gauche, c'était la droite qui était considérée à l'époque par les analystes comme étant la plus bête. Donc, par rapport à ça, non, je pense que Le Pen ne vaut pas 45%. C'est la droite, l'extrême droite globale qui vaut 45%. C'est Le Pen, Zemmour et
Dupont-Aignan. Elle est donnée à 45.
Oui, si elle va au deuxième tour, mais je ne crois pas qu'elle ira. Là où
je pense qu'elle ira.
Je pense que celui qui va créer
l'entreprise,
je ne croyais pas une seconde. Je ne croyais pas du tout en ce personnage-là. C'est Mélenchon qui ne fait que monter et remonter. Et c'est Mélenchon...
Alors, est-il vrai ?
Juste pour finir, c'est Mélenchon qui ira au second tour. Et comme Mélenchon...
Ah bon ?
Je suis certain.
Certain ?
Certain.
Ah oui, vous dites quoi ? Vous dites quoi? Mélenchon au second tour.
Qu'on se donne rendez-vous. Parce
qu'il a déjà fait le tour. Gamal Abina dit qu'il peut se retrouver au second tour.
Je ne vois pas avec quelle dynamique.
Attends, il n'a pas de dynamique. Il est à 5 points.
Non, il est pas.
Il est à 5, à 6 points derrière.
Ça, c'est ce qu'on a vu en 2015.
Marine Le Pen est dans tous les sondages.
On l'a vu en 2017 dans tous les sondages.
Cette narration, ce narratif.
Clochette, oh là là.
Qui est développé par Mélenchon est un narratif qui n'existe pas.
Gamal.
On a vu Mélenchon il y a 5 ans, dont personne ne donnait un copec, il était de 13, il est passé à 19. Le point de Mélenchon, c'est que c'est un vote qui est un vote surprise. C'est-à-dire que moi, j'y croyais pas du tout, je suis pas un mélenchoniste, je n'aime pas le personnage, mais il y a une réalité. Il ne fait que progresser et il mobilise. La gauche est morte et Mélenchon monte. Le PS vaut 1,5% quand lui dépasse les 13. Donc, en vérité, la surprise viendra à lui et s'il arrive au second tour, il y aura vraiment une réaction extrêmement violente de la société pour ne pas le laisser au pouvoir, parce qu'évidemment, Mélenchon, on considère comme un type dangereux, économiquement.
Est-il vrai que 60% des électeurs de Mélenchon voteraient Le Pen au second tour de la présidentielle? Qu'est-ce que vous dites, comme l'affirme Etoven?
Non, mais
d'une phrase,
Etoven raconte
avant de rendre l'antenne.
N'importe quoi.
Il raconte
n'importe quoi.
Ah bon,
c'est un, mais bien sûr, c'est un sondage qui date de 2019, qui ne prend pas en compte le vote blanc et les abstentions, et ça n'a aucun sens. Ce monsieur est habité par une haine incompréhensible. Voilà, c'est tout.
Une haine de tout.
Emmanuel Dupuy. Et,
tu as raison, Emmanuel, une haine de tout.
D'une phrase par rapport à ce qu'a dit Pierre-Henri. 45% des votants. Ne pas oublier que ce n'est pas la majorité des Français, parce qu'il y aura quand même entre 40, voire 45% de gens qui ne voteront pas, d'une manière ou d'une autre. Abstention ou vote blanc.
Ça vient à la moitié, quoi, 22%.
Les votes blancs.
Gamal Abina, qu'est-ce que cela vous inspire, justement, les 60% des électeurs de Mélenchon? Ça m'a surpris, moi, quand même, qu'ils pourraient voter potentiellement Le Pen.
Raphaël Entoven, il a été bon sur le Covid. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément mauvais. C'est un très bon passionné de philosophie, indiscutablement.
Il n'est pas un docteur. Hein.
Non, il n'est pas docteur, mais il est très bon passionné. C'est pour ça que j'ai passionné de philosophie.
Oh, maintenant, tout le monde.
Mais une chose est certaine, Raphaël Entoven fait des pronostics qui sont dogmatiques. Là, il ne dit pas une analyse réelle et sérieuse sur des bases d'études qui sont corroborées. Il dit sa haine de Mélenchon. Donc là, on ne peut pas écouter un homme qui se poste comme quelqu'un qui n'aime pas Mélenchon. Moi, je n'aime pas Mélenchon, mais je dis qu'il peut passer au second tour en dépit du fait que je n'aime pas Mélenchon.
Il n'y a peut-être pas tant Gamal Abina, hein, finalement. C'est vrai que c'est le scénario probable. C'est peut-être la surprise de cette campagne présidentielle.
Aucun donateur, mais c'est vrai que Raphaël Entoven n'est pas un sondagier ou un sondagiste, mais est un chroniqueur.
Ouais. Ce fameux second tour.
C'est un éditorialiste, quasiment. C'est un éditocrate.
Un éditorialiste, donc en fait, il a affirmé sa vue, sa perception. Mais il n'a pas analysé.
Écoutez, l'extrême droite est donnée dans ce pays depuis le mois de septembre à plus de 30%. Et à un moment donné, nous avons assisté à une montée au zénith de Zemmour. Et aujourd'hui, il est en dessous de 10%. C'est et Marine Le Pen est donnée à 20%. Voilà. Alors après, qu'il y ait un certain nombre d'électeurs de Mélenchon qui se reportent effectivement sur Marine Le Pen ou qui s'abstiennent,
c'est possible.
Mais pas dans les proportions données Entoven.
Merci à Pierre-Henri. À très vite.
Merci à
Emmanuel Dupuy. À très vite aussi.
Vous me réinviterez.
Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Réconciliation nationale.
Mais oui, la réconciliation en direct.
La clochette.
Gamal Abina, à très bientôt.
Un plaisir, à très bientôt.
Merci à Giovanni à la réalisation. Tout de suite, c'est Bilal Nedman de 20h à 21h avec Thème Sport. Qu'est-ce que vous voulez dire un mot sur quoi? Je devais vous laisser un mot.
Sur
on a
la
pas
petite
temps.
Équipe
non, sur
du
votre
PSG.
Communiqué, le communiqué que vous m'avez envoyé.
Non, ça, c'est pour Bilal.
Saluer la nomination de Jean-Marie Bockel, qui préside la commission indépendante sur le statut des harkis, puisque ça a été rendu public hier par le président Emmanuel Macron.
Eh bien, merci. Bilal Nedman, 20-21, on n'a pas le temps de l'annoncer. Là, il a le temps de venir. Non, il n'a pas le temps. Aïe. Et son programme Time Sport à demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.